le loup.
La une ce midi, ce sont ces nouveautés dans les forces armées. Vous entendrez le contre-amiral. On parlera des municipales aussi, avec la directrice de l'hôpital qui est candidate à Bora Bora. Et puis cette conférence sur le cerveau programmée demain. Le journal de la mi-journée, c'est avec Lucie Rabréau. Bonjour Lucie.
Bonjour Sanchez, bonjour à tous.
En 2026, les forces armées en Polynésie poursuivront leur montée en puissance.
Voilà, c'est ce qu'a affirmé le contre-amiral Guillaume Pinget sur nos antennes. Il était l'invité de la rédaction et il a détaillé cette dynamique de renforcement des moyens de défense. C'est du côté de la base aérienne qu'il faudra d'abord regarder pour observer un renforcement des capacités.
On verra l'arrivée du deuxième Falcon 50, qui est un avion de surveillance maritime de nouvelle génération, et ça va se traduire par le retrait finalement des gardiens qui vont continuer à servir en Calédonie, mais ici en Polynésie on sera juste au format Falcon 50. C'est un avion qui vole 6 heures contre 4, donc il va plus loin, il va plus vite parce qu'il a 3 réacteurs, donc il permet de se projeter directement sans forcément faire d'escale. Et il a cette caméra optronique qui permet de voir de jour comme de nuit et qui a des senseurs vraiment plus performants, et la capacité de communiquer avec lui en temps réel en vol est particulièrement intéressante pour les missions qu'on a à lui confier.
Des appareils de nouvelle génération plus performants avec un rayon d'action 10 à 30% supérieur que les avions actuels. Et pour les accueillir, des travaux d'ampleur sont engagés à Tahiti Faa avec la réfection des aires aéronautiques, des infrastructures et de l'état-major. Du côté de la marine, un nouveau quai doit être livré cette année à la base navale pour accueillir le Philippe Bernardino. Sur le plan terrestre, les forces armées en Polynésie vont compter plus de 200 militaires supplémentaires sur la période de la loi de programmation 2024-2030. 80 personnes en plus dès cette année.
Et j'ai beaucoup de chantiers infrastructures qui sont en cours. On a évoqué le quai des patrouilleurs, on a évoqué les aires aéronautiques et le chantier Afsima Rafa. Mais j'ai également des programmes de logement, d'hébergement et de mise à niveau des infrastructures dont je dispose pour accueillir tous ces renforts. Le message que je peux passer, c'est qu'effectivement, on a cédé beaucoup de terrain entre les années 2015 et maintenant. Maintenant, on remonte en puissance dans ce cadre qui est contraint et on n'a plus de marge de manœuvre disponible. Et la marge de manœuvre dont on dispose, on l'utilise pour nous, pour réaliser nos projets, remonter en puissance au service de la protection de la Polynésie et des Polynésiens.
Autre nouveauté annoncée pour 2026, la création d'une escouade de réserve côtière à Papeete d'ici le mois de juillet. Et point majeur cette année, le retour de l'exercice Marara. En 2024, 1000 militaires de 15 nations différentes avaient participé.
Effectivement, notre grand exercice Marara, qui est un exercice annuel, qui est un exercice à dominante assistance humanitaire multinationale, donc c'est une thématique en général d'événements climatiques extrêmes, avec un besoin d'assistance des populations. Et donc ce grand exercice est prévu du 3 au 18 juin, ici en Polynésie. En multisite, on est en train d'organiser tout ça avec nos partenaires et on attend plus de 1000 personnes, plus de 1000 participants.
Le contre-amiral Guillaume Pinget était au micro de Charlie René. Vous pouvez retrouver plus de détails dans notre article sur notre site radio1.pf.
Allez, de la politique à présent dans ce journal avec la directrice de l'hôpital qui fait campagne contre Gaston Tongsang à Bora Bora.
Légal, tout à fait gérable et même intéressant pour la commune. Voilà ce que dit Haniteri Payahot qui vient d'officialiser sa candidature à Bora Bora. En tête de la liste, Yaora Popora, une candidature inédite pour la directrice du plus important établissement public du pays. Mais Haniteri Payah n'y voit pas de difficulté ni pour la campagne ni en cas d'élection.
J'ai l'intention de cumuler les deux parce que tout d'abord, c'est légalement autorisé, donc il n'y a pas de conflit d'intérêt. J'ai fait vérifier également sur l'application des lois. Ensuite, pour moi, c'est tout à fait gérable parce que Bora Bora est à 45 minutes et il y a plusieurs vols dans la même journée. Et je le fais déjà là dans le cadre de la campagne. Et les tâches opérationnelles quotidiennes, je pourrais les confier soit à mon équipe opérationnelle de l'hôpital ou aux élus.
Pour elle, sa fonction de directrice hospitalière est au contraire un atout. Elle dit avoir su montrer ses capacités à résoudre des crises. Dans son programme, la candidate a prévu 6 points principaux, avec en premier lieu le volet social et une aide pour les familles en difficulté. La candidate veut aussi recréer du lien social et de cohésion sociale à Bora Bora.
Il y a la construction d'un centre culturel et d'un grand marché pour le centre-ville en matériaux locaux. Et selon l'architecture polynésienne, qui permettrait de donner un espace d'expression de la culture au travers de danse, des chants, la maîtrise de l'art polynésien, mais aussi avec une école d'art et de culture, tressage de nid-ou, la sculpture sur bois.
Haniteri Payahot parle aussi de promouvoir la construction d'une clinique privée et du sport qu'elle veut rendre gratuit pour les 12-15 ans. La fille de l'ancien ministre Mita Teri Paya va donc défier Gaston Tongsang, maire depuis depuis qu'elle est née, elle veut porter sa propre vision d'avenir pour l'île.
Une élection municipale prévue donc les 15 et 22 mars et qui pourrait en cacher une autre.
C'est le Premier ministre Sébastien Lecornu qui a parlé d'une éventuelle nouvelle dissolution des législatives anticipées qui pourrait se tenir en même temps ou au lendemain des municipales. Une perspective qui soulève beaucoup d'interrogations. Au Fénois, le conseiller municipal et candidat à Harwe, Tepuanui Snow, s'énerve de voir des crises politiques parisiennes importées dans les urnes locales. Pour lui, les législatives vont, je cite, « parasiter le scrutin municipal et brouiller les pistes pour les électeurs ». Côté autonomiste, Nicole Sanquer et Moerani Frebo avaient été élus grâce à la plateforme Amuitato, très peu animée depuis un an et demi. Pas de problème pour Nicole Sanquer, prête à retourner devant les électeurs pour clarifier les choses à Paris et prête également à relancer cette alliance autonomiste, mais pour les législatives, pas pour les municipales. Et que se passera-t-il côté Tavigny en cas de dissolution? Aux dernières nouvelles, Anthony Géraud comme Oscar Temaru ne voulaient plus participer aux élections nationales, mais chez les élus Bleu Ciel, on rappelle que malgré les ordres réguliers de boycott, le Tavigny a toujours participé aux législatives. C'est aussi du temps sur le terrain, une tribune importante et des financements nationaux au parti. La plus grande interrogation concernera les candidats. Les députés ne peuvent pas être maires et il est donc difficile devant les électeurs de justifier une double course au mandat. Et côté logistique aussi, ce calendrier ne manquera pas de challenge.
Après les courses aux urnes, on parle de courses au large maintenant.
Avec le skipper et ingénieur polynésien Michael Girard, arrivé récemment dans les eaux du Fénois, le trimaran de course océanique Wave 2 a fait le parcours Tahiti-Tetiaroa Tahiti hier. Michael Girard était au micro de Nani Hilaroche.
On a mis une heure pour atteindre Tetiaroa. Ensuite, on a fait le tour de Tetia et on est rentré. Du coup, on a mis au total 3h22. On a perdu un peu le vent. On pensait mettre moins de 3h. Mais en arrivant sur Tahiti, on a perdu le vent et du coup, on a perdu un petit peu de temps. Et on a quand même mis 3h22 pour faire la pointe Vénus, tour de Tetiaroa et la pointe Vénus. Donc, on est très contents.
3h22, donc l'objectif était de faire un temps de référence pour donner envie à d'autres navigateurs de venir battre ce record et faire rayonner la Polynésie dans la course au large. Pour le skipper et ingénieur polynésien, la voile, ce n'est pas que de la croisière. Et d'ailleurs, il a prévu de faire la route du Rhum en novembre avec son associé Cine Vernon, puis la Caribbean 600 avec une équipe du Fénois, avant de revenir en 2027 avec un autre trimaran, un bateau qui resterait en Polynésie pour servir de support pédagogique et pour promouvoir la course au large.
Et on termine avec cette conférence et cette formation sur le cerveau.
Sylvie Chocron est neuropsychologue, directrice de recherche au CNRS et l'association ProScience l'a invitée à parler de son domaine d'expertise, le cerveau. Elle va animer une conférence pour le grand public, ce sera demain. Elle veut montrer l'importance de l'art, de la lecture et du rêve pour le fonctionnement du cerveau. Ils nous font littéralement du bien et permettent d'entretenir notre tête.
Moi je pense qu'à l'ère justement des écrans, des réseaux et de l'intelligence artificielle, notre devoir c'est de garder un cerveau le plus humain possible et donc de cultiver ces tâches qu'on a développées au cours de l'évolution et qu'on a préservées au cours de l'évolution, comme l'art, comme la lecture, comme les rêves. Et au lieu d'avoir ce fantasme de vouloir être aussi efficace qu'une machine, il faut considérer que les machines sont des outils qui vont nous aider, que l'IA c'est un outil et ça ne va pas plus loin, mais que tout ça ne doit pas se substituer à notre cerveau qui est d'une richesse infinie et d'une efficacité extrême, bien plus importante que les machines.
Cette conférence sera donc demain à la salle philanthropique chinoise en face d'Odyssée et c'est gratuit. Et puis le lendemain, Sylvie Chocron sera avec les professionnels de santé pour parler d'un sujet méconnu, les troubles neurovisuels. Les yeux voient bien, mais c'est le cerveau qui ne comprend pas.
Aujourd'hui, on sait qu'il y a 3 ou 4 enfants par classe, donc vraiment c'est un nombre très important, qui ont du mal à faire des apprentissages, à apprendre à lire, à écrire, à compter, qui même peuvent avoir du mal à interagir, qu'on peut prendre pour des autistes, pour des enfants avec des troubles de l'attention, ou des troubles de la lecture, des dyslexies, des dysorthographies, alors qu'en réalité, ils ont du mal à comprendre ce qu'ils voient. Et ils ont des troubles qu'on appelle neurovisuels.
Et ils sont très mal diagnostiqués, ces troubles neurovisuels. On sait aujourd'hui que ce ne sont pas les yeux le problème, mais des lésions dans le cerveau. Sans dépistage, pas de rééducation, alors qu'elle est possible. Et une fois adulte, il y a des risques de burn-out et d'épuisement parce qu'ils surcompensent leurs difficultés. Sylvie Chocron veut sensibiliser les professionnels de santé et leur présenter les tests que son association a mis au point.
On a mis au point des tests qui sont justement distribués via l'association Les yeux dans la tête. Ils permettent d'aller rechercher un trouble neurovisuel chez un bébé à partir de 3 mois, chez des enfants. On a mis au point donc des petites mallettes de dépistage et ces tests très simples et très rapides vont permettre d'aller dépister les troubles neurovisuels.
Et cette formation pour les professionnels, ce sera mercredi. Et la conférence pour le grand public, c'est donc demain. Toutes les infos sur la page Facebook de l'association ProScience. Voilà, c'est la fin de ce journal. Retour de l'information à 16h pour le Flash.
Merci beaucoup Lucie pour les informations. Maintenant, voici la météo sur Radio.